Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon lundi. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Écoutez, si jamais vous êtes un petit peu déprimé aujourd'hui, ben quatre bonnes raisons d'être optimiste. En fait, c'est de Richard Béliveau dans le Journal de Montréal, Journal de Québec de ce matin qui nous les donne. Ben écoutez, des raisons d'être optimiste face à la lutte contre la COVID. Premièrement, dit-il, on peut compter sur des vaccins exceptionnels. Deuxièmement, la campagne de vaccination est un grand succès. Troisièmement, les vaccins sont efficaces contre les variants. Et quatrièmement, on connaît beaucoup mieux les mécanismes biochimiques d'attaque du virus sur le corps. Moi, quand j'ai lu ça ce matin, là, j'ai poussé un très grand, très heureux et très satisfait. Ben voyons donc! Les nouvelles sont bonnes!
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
La semaine dernière, il a beaucoup, beaucoup fait parler de lui, Maxime Bernier, qui est chef du Parti populaire du Canada, qui fait partie d'une coalition qui dénonce l'hystérie COVID et qui, en conférence de presse, a affirmé qu'à 58 ans, en pleine santé, il n'avait pas besoin de se faire vacciner contre la COVID. Ça a beaucoup fait réagir. Il est au bout de la ligne, il va pouvoir s'expliquer. Monsieur Bernier, bonjour.
Bonjour, merci.
Écoutez, M. Bernier, votre déclaration la semaine dernière a beaucoup fait réagir. Beaucoup de gens trouvent inconscient et dangereux de votre part, comme politicien qui se prononce sur la place publique, de dire qu'à 58 ans, parce que vous êtes en santé, vous n'êtes pas à risque pour la COVID. Est-ce que vous êtes conscient des conséquences que votre déclaration peut avoir eues sur des gens?
Bien, faut parler des risques. Effectivement, vous avez raison. Il y a trois raisons pourquoi je ne me ferai pas vacciner. Premièrement, je veux dire que je ne suis pas contre les vaccins. J'ai déjà eu dans ma vie plusieurs vaccins. J'ai voyagé à travers le monde. J'ai dû avoir des vaccins. Et je ne suis pas un complotiste. Je crois à la liberté de choix des gens. Les gens peuvent choisir et doivent choisir, comme c'est le cas actuellement, s'ils veulent se faire vacciner ou pas. Moi, il y a trois raisons majeures qui font en sorte que j'ai décidé de ne pas me faire vacciner contre la COVID-19. La première, effectivement, c'est que je suis assez jeune et comme vous savez, la COVID affecte beaucoup plus les gens âgés. Les 80% des décès au Québec et au Canada, c'est des gens âgés de plus de 70 ans. Donc, j'ai 58 ans, je suis moins à risque, je suis aussi en forme, j'ai pas de comorbidité. Et en plus, si jamais j'attrape la COVID, j'ai 0,05% des chances d'en mourir. Donc, je pense que les statistiques sont en ma faveur et c'est pour ça que j'ai décidé de pas me faire vacciner.
D'accord. Mais vous êtes conscient, M. Bernier, que vous nous dites 0,005% d'en mourir, mais si vous l'attrapez, la COVID, vous allez toujours bien retentir dans le système de santé publique, que ce soit au Québec ou que ce soit en Ontario, et vous allez donc occuper une place, peut-être au service intensif d'un hôpital, parce que vous ne vous serez pas fait vacciner, puis pendant ce temps-là, il y a peut-être des gens qui ont respecté toutes les règles et qui n'auront pas le droit à une chirurgie parce que le citoyen Bernier ne se sera pas fait vacciner.
Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Premièrement, si j'attrape la COVID, j'ai plusieurs chances, à cause de ma situation physique, d'être asymptomatique. Et il faut savoir que la population en général, on s'en vient vers une immunité collective grâce aux gens qui sont vaccinés, oui, mais grâce aussi aux gens qui ont attrapé la COVID, asymptomatique ou pas. Et donc, l'immunité collective se crée par ces deux données-là. Et dans quelques mois, nous allons avoir une immunité collective et j'espère bien que on va arrêter l'hystérie COVID et de libérer l'économie et faire en sorte que les gens puissent retrouver la vie normale.
Oui, mais c'est effrayant ce que vous venez de nous dire, M. Bernier. Vous êtes en train de nous dire on va avoir l'immunité collective, entre autres grâce au vaccin. Donc, vous, citoyen Maxime Bernier, vous allez être protégé parce que les gens autour de vous se seront fait vacciner. Donc, vous, vous dites, moi, c'est correct, j'ai pas besoin, je peux sortir dehors, il pleut, parce qu'il y a d'autres qui tiennent le parapluie pour vous. C'est une drôle de réaction.
Non, ce que je dis que à cause de ma décision de ne pas me faire vacciner, je n'empiète pas quelqu'un qui décide de se faire vacciner. La personne qui décide de se faire vacciner va ne rattrapera pas le COVID à cause de moi. Elle va avoir le vaccin. Donc, ce que je fais, c'est moi, je mets Maxime Bernier à risque, mais comme je vous ai dit, j'ai 0,05% de chance d'attraper la COVID et d'en mourir. Donc, pour moi, le risque est très bas.
Mais
c'est pour ça que je parle d'une hystérie. C'est pour ça que je parle d'une hystérie COVID. Il y a 8 morts aujourd'hui de la COVID dans la presse. 8 ou 9. Hier, c'était 9. Aujourd'hui, c'est 8. C'est dramatiquement très bas par rapport au pic de la crise il y a un an. Et donc, on est en train de tuer l'économie. On est en train de faire en sorte que les gens n'ont pas de diagnostic de cancer. Habituellement, il y a un nombre élevé de gens qui ont le cancer à chaque année au Québec. Maintenant, ce nombre-là est très, très bas. Et ça ne veut pas dire que les gens n'ont plus le cancer. Ça veut dire qu'il n'a pas été diagnostiqué. Ça veut dire que l'espérance de vie de ces gens-là diminue. Il y a des gens qui ont des chirurgies qui sont reportées. La cure, elle est pire que le mal. Et donc, il faut arrêter tout ça. Il y a plusieurs États américains, la Floride, le Texas, il y en a plus de 15 États américains qui ont libéré leur économie, qui ont permis aux gens de retourner à la vie normale. C'est ce qu'il faut faire le plus rapidement au Québec.
Mais vous prenez l'exemple des États-Unis. Savez-vous combien il y a eu de morts aux États-Unis à cause de l'administration Trump, justement, qui a été et qui a très, très mal réagi à la menace du vaccin? Vous nous avez dit au tout début que vous n'êtes pas complotiste, mais vous êtes, je trouve, vous vous alliez à des gens qui ont des propos extrêmement dangereux. Je veux juste revenir à votre déclaration de la semaine dernière, Monsieur Bernier. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en donnant une conférence de presse, on a vu beaucoup circuler en boucle votre extrait où vous dites « Moi, j'ai 58 ans, je suis en bonne santé, j'ai pas besoin de me faire vacciner. » Le message que vous envoyez dans la population est extrêmement grave. Même si vous dites aux gens « Vous avez le droit de vous faire vacciner si vous voulez, mais moi, je le ferai pas. » Vous avez une responsabilité en tant que politicien, Monsieur Bernier. Le message que vous envoyez est un message extrêmement néfaste?
Non, je ne crois pas. Je ne crois absolument pas. Si vous parlez des États américains comme la Floride où il y a eu plusieurs cas, si on regarde les États qui ont eu des confinements versus les États qui n'ont pas eu de confinement, il y a plusieurs statistiques qui viennent de la CDC américain, l'organisme de contrôle des...
Center for Disease Control, oui.
Oui, merci, merci. Les statistiques démontrent qu'un État confiné ou pas, ils ont à peu près le même nombre de résultats, le même nombre de cas, le même nombre de morts. Donc, c'est une expérience qu'on a fait dans la société actuellement occidentale et partout dans le monde de ces confinements-là. On a eu plusieurs virus à travers le monde depuis les temps, et puis on n'a jamais fait de confinement. La meilleure façon de lutter contre ce virus-là, c'est effectivement de s'assurer que l'unité collective peut se développer et qu'on protège les plus âgés, les gens qu'on sait qu'ils sont très à risque. Moi, je dis que le gouvernement du Québec a une énorme responsabilité, beaucoup plus que moi, si vous me tenez responsable. Je pense que je ne suis pas responsable de ce qui arrive actuellement. Le gouvernement du Québec, il l'est. 80% des décès sont arrivés dans des centres que le gouvernement du Québec gère. C'est eux qu'il faut blâmer, là. Moi, je regarde qu'est-ce qu'il y en est. On est dans une société libre. Et ce que vous dites, c'est comme si j'aurais pas le droit de liberté d'expression. Non, absolument pas. J'étais à Barrie, Ontario. J'étais à Niagara Falls.
Oui, on va en parler.
Ce week-end dernier. Et je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs gens qui disent qu'ils en ont assez de ces mesures autoritaires et draconiennes, qu'il faut que ça l'arrête. On sait, ça fait un an maintenant que ça existe, là. On connaît le virus, on sait comment le traiter, on sait qui sont plus affectés. C'est incroyable qu'on ne permette pas aux jeunes de retourner à l'école lorsque les jeunes ne sont pas à risque. Si vous avez 30 ans et moins, vous avez...
Non, mais ils sont à risque de le transmettre, M. Bernier. Les médecins, tous les médecins vont vous le dire. Les jeunes sont un facteur de transmission. Je veux revenir sur votre passage à Barrie, parce que bon, moi, je n'y étais pas, mais il y a des médias en Ontario qui ont donc couvert votre rassemblement. Il y avait entre 400 et 500 personnes réunies à Barrie, en Ontario. Et les photos que je vois de vous, Monsieur Bernier, vous ne portez pas le masque, vous ne respectez pas la distanciation de 2 mètres, vous vous faites prendre en photo avec des partisans de ce rassemblement pour la liberté, dans une province où la situation de la pandémie est au bord du gouffre. Je vous trouve irresponsable, Monsieur Bernier.
Mais Mme Durocher, écoutez, je pense que ce que je viens de vous dire, c'est que ce virus-là, il y a des façons de le traiter. Et j'ai décidé...
Mais pourquoi vous n'avez pas porté le masque à ce rassemblement à Barry? Pourquoi vous faites photographier avec des gens à moins de 2 mètres? C'est un danger public, ce rassemblement-là qui a eu lieu samedi à Barry, M. Bernier?
Écoutez, je ne crois pas, je ne suis pas d'accord avec vous, je respecte votre opinion par rapport à ça. Les gens qui étaient là ont décidé d'y aller librement, et moi aussi. Et oui, effectivement, j'ai même donné des câlins à des gens qui me le demandaient, et j'ai fait des discours. Je ne ferai pas un discours en portant un masque. Je crois que la meilleure façon de lutter contre le virus, c'est de s'assurer qu'on protège les plus âgés. Les gens qui étaient là ont jugé qu'ils n'étaient pas à risque de mourir du virus et ont pris leur décision librement, tout comme moi.
Mais j'en aurais pas. Vous êtes en train de me dire qu'à ce rassemblement-là pour la liberté à Barrie, en Ontario, qui est la province qui crie à l'aide, le premier ministre de la province, Doug Ford, a commencé sa conférence de presse vendredi ou jeudi dernier en disant « on l'a échappé, on est en train de frapper un mur ». Vous allez en Ontario et vous en allez donner des câlins aux gens sans porter le masque. Je m'excuse, mais
regardez,
si je trouve...
En Ontario, le nombre de morts, vous exagérez, les faits des cas, c'est vrai, il y a plusieurs cas en Ontario, mais l'impact de ces cas-là, l'impact sur les décès en Ontario, c'est à peu près de 18 à 20 personnes par jour. L'Ontario est le double de la population du Québec, et donc, c'est ça que je dis, on fait une hystérie avec les cas. Il y a plusieurs cas où c'est des faux positifs, des cas où c'est des gens asymptomatiques, et donc...
Mais les gens qui sont aux soins intensifs, puis les services de santé, puis les hôpitaux qui sont débordés en Ontario, M. Bernier, allez-vous nous dire que c'est de l'hystérie COVID? Avez-vous parlé à des médecins dans les urgences en Ontario? Avez-vous parlé à des médecins et du personnel soignant dans les soins intensifs où ils sont débordés? Oui, avez-vous vu les hôpitaux de fortune qui sont installés dans des stationnements, dans des endroits? Mais le système de santé en Ontario est à un pouce de péter aux frettes. Puis vous nous dites que c'est de l'hystérie. J'en reviens pas. Je vous trouve irresponsable, M. Bernier.
Ce que je vous dis par rapport à la situation en Ontario, c'est la même situation au Québec. On nous parle des urgences qui vont déborder. On base ça sur des projections mathématiques.
Faits, sur la réalité en ce moment même dans les hôpitaux en Ontario.
Oui, mais là, je parle du Québec, là. Mais en Ontario, effectivement, mais le système, c'est pas nouveau qu'à chaque année, avec la grippe qui arrive, que le système risque de déborder au Québec, le système de santé. Je suis d'accord avec vous sur le point qu'en Ontario, le système de santé est plus à risque maintenant, aujourd'hui, qu'il l'est au Québec, par exemple. Mais ceci étant dit, je regarde le nombre de décès et je me dis que on est capable, les gens sont moins actuellement en danger de mourir parce qu'on sait qu'on protège les vieux. En Ontario, M. Ford le dit, la vaccination va très bien pour les personnes plus âgées et c'est ces personnes-là qu'il faut protéger.
Je vous trouve hallucinant, M. Bernier, je m'excuse en tout respect, là. Vous êtes en train de minimiser ce qui se passe en Ontario. Je veux dire, êtes-vous épidémiologiste? Avez-vous fait, pendant la fin de semaine, un cours accéléré en médecine, que tout d'un coup, vous êtes un spécialiste de la santé et que vous connaissez mieux le système de santé de l'Ontario que les médecins ontariens qui crient, qui hurlent que la situation est absolument dramatique? Vous arrivez puis vous dites, « Oh, ben, il y a rien là, ce qui se passe en Ontario, il y a pas tant de gens que ça qui meurent. » J'en reviens pas, j'en reviens pas que vous puissiez dire des choses pareilles.
Regardez les statistiques. Je ne dis pas que le système en Ontario n'est pas en situation critique aujourd'hui, le système de santé en Ontario. Je ne renie pas les faits. Mais ce que je dis, c'est que les gens qui sont normalement dans les urgences, c'est les gens les plus âgés. Et les gens avec qui j'étais, c'est des gens qui des jeunes familles qui sont tannés des mesures et qui se battent pour retrouver leur liberté. Et c'est ce que je faisais avec eux. Et oui, je suis d'accord avec vous qu'il faut protéger les gens les plus âgés parce que c'est eux qui ont plus de chances d'attraper la COVID et d'en mourir et d'aller dans les hôpitaux, en urgence dans les hôpitaux. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que plusieurs experts, je ne suis pas expert, je ne suis pas médecin, je suis politicien qui prône la liberté et qui veut retrouver nos valeurs fondamentales. Mais ce que je dis, il y a plusieurs aussi autres experts américains, dont ceux qui ont signé la déclaration de Barrington, qui sont les conseillers du gouverneur de la Floride et qui disent absolument que ces confinements-là ne fonctionnent pas, qu'on devrait protéger les plus âgés, et avec des preuves statistiques que dans les États où on a confiné et dans les États où on n'a pas confiné, c'est la même chose. C'est ce que je prône, c'est ce que je dis. Revenons à la normale et c'est ce qu'il faut faire. Puis on sait comment lutter contre le virus. Il est pas, c'était pas nouveau là. Ça fait un an là qu'on est là-dedans.
Monsieur Bernier, je ne conteste pas votre droit à la liberté d'expression, je ne conteste pas votre droit de contester les mesures sanitaires. Ce que je vous dis, c'est que je trouve dangereux que samedi, vous soyez allé dans la province canadienne où il y a le plus grand cas, où le système de santé est au bord de péter aux frettes, et que vous donniez des câlins à des inconnus dont vous ne savez absolument pas s'ils ont un billet de santé impeccable ou pas, que vous avez refusé le vaccin et que vous soyez à moins de 2 mètres de gens en ne portant pas le masque. Je vous le dis, je trouve ça criminel et je suis sans mots devant votre attitude que je trouve dangereuse. Écoutez, depuis que vous avez fait cette déclaration-là, il y a beaucoup de gens qui ont commenté vos déclarations, entre autres des chroniqueurs évidemment au Journal de Montréal, mais aussi des caricaturistes. Quand on vous présente comme Mad Max ou quand on vous présente comme un covidio, comment vous réagissez à ces caricatures-là, Monsieur Bernier?
Écoutez, je ne contrôle pas ce que les gens disent sur moi. C'est pour moi, je pourrais dire que l'appui de leurs insultes n'atteint pas le parapluie de mon indifférence.
Mais est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens qui soient choqués de vos propos, choqués de votre attitude? Est-ce que vous comprenez, par exemple, des médecins qui ont été extrêmement choqués de ce que vous avez dit? En laissant entendre que parce qu'on est en bonne santé, c'est rempli de médecins qui ont répondu à votre déclaration en disant « Monsieur Bernier se trompe, il ne connaît pas la science. Le fait qu'on soit en bonne santé ou pas n'a strictement rien à voir avec le fait qu'on va ou pas attraper la COVID. » Qu'est-ce que vous répondez à ces médecins-là qui ont plein de diplômes sur leur mur, bien plus que vous, Monsieur Bernier?
Oui, là-dessus, ils ont raison. J'ai un risque d'attraper la COVID. C'est pas ça le pourquoi que je ne prends pas le virus, parce que mes risques de mourir de la COVID sont de 0,05% selon les données de Statistique Canada des gens au Canada qui attrapent la COVID. Je regarde le risque de mourir et si je l'attrape, pour moi, vu que je suis en santé, j'imagine que je vais bien m'en sortir, comme plusieurs autres personnes qui sont en santé. Donc, ceci étant dit, moi, j'ai décidé de ne pas prendre le virus parce qu'en regardant
le vaccin que vous n'avez pas choisi de prendre.
J'ai peut-être déjà eu le virus, j'ai peut-être déjà été asymptomatique. Je ne me suis jamais fait tester si j'ai déjà eu le virus ou pas. J'ai peut-être développé des anticorps au moment où on se parle. Et donc, le risque de mourir du virus était très, très minime, 0,05%. Donc,
oui, mais si vous l'avez, là, si vous l'avez, M. Bernier, avez-vous vu des témoignages de gens qui l'ont eu, la COVID, qui se retrouvent aux soins intensifs, qui se retrouvent sous respirateur? Qu'est-ce que vous allez dire au personnel médical si jamais vous l'attrapez, puis que vous pointez dans un hôpital, puis qu'il vous demande comment vous l'avez attrapé, puis vous avez dit « Ah, oh, ben moi, j'ai choisi de pas avoir le vaccin parce que je risque pas d'en mourir. » Qu'est-ce que vous allez répondre au médecin urgentiste qui va travailler sur votre cas quand vous allez être hospitalisé pendant 2 semaines, M. Bernier?
Là, vous prenez pour acquis que si je l'attrape, je vais être hospitalisé. Ce que je vous dis, c'est que si je l'ai attrapé dans le passé ou si je l'attrape dans le futur, je crois qu'avec ma situation physique actuellement, je ne serai pas en urgence. Et d'ailleurs, si on regarde les personnes qui en meurent, qui sont en urgence, est-ce que les médias ne nous parlent pas souvent? C'est des gens qui ont de la comorbidité, soit qui soient diabète, qui a un problème de cœur et qui a la COVID. C'est ces gens-là qui se ramassent en urgence. Moi, je suis en pleine forme. J'ai couru 119 km en 13 heures il y a 4 ans. Je continue à courir. Je mange bien. Je m'entraîne. Et donc, je ne me retrouverai pas, selon moi, dans les soins intensifs. Et demander à ces docteurs-là qui se retrouvent dans les soins intensifs, c'est des gens qui ont la COVID et qui ont des comorbidités. C'est des statistiques officielles du gouvernement du Canada. Donc, à ces camps, ce qui me concerne, je ne pense pas que je vais prendre une place dans les urgences des hôpitaux du Québec.
Quand vous avez fait votre conférence de presse la semaine dernière contre, bon, le confinement, le passeport vaccinal et tout ça, il y avait sur place, au sein de cette coalition, il y avait un pasteur, le pasteur Michael Thiessen, qui fait des déclarations assez particulières. Il dit « La science n'est pas une autorité morale, les décisions politiques peuvent s'en inspirer, mais celle-ci doit être guidée par d'autres valeurs comme la foi. » Pourquoi vous vous accoquinez avec des gens comme ça qui disent que la loi de Dieu est plus importante que la science ou la médecine?
Mais, premièrement, le docteur, pas le docteur, mais le pasteur, pardon, Michael est celui qui a fondé la Liberté Coalition Canada. Et moi, je fais partie de l'organisation sous Liberté Coalition Canada, qui est un groupe non partisan de politiciens en ce qui concerne le caucus contre les confinements. Et Liberté Coalition Canada a plusieurs groupes. Il y a des infirmières contre les confinements. Il y a les pasteurs pour la réouverture des églises. Le point en commun qu'on a entre moi et le pasteur, c'est le fait qu'on doit mettre fin au confinement. Et,
si, oui, mais vous vous associez avec des gens qui disent que la science, c'est moins importante que la foi qu'on a en Dieu. Je repose ma question. Pourquoi vous associez avec des gens comme ça, M. Bernier?
Là, je m'associe avec des gens qui prônent la même idée finale que moi, c'est-à-dire qu'on veut mettre fin au confinement. Il a le droit à ses propres opinions. Je crois en la science et c'est un homme de foi. Donc, lui, il croit que ce qu'il a dit en conférence de presse, c'est ce qu'il croit. Je ne partage pas tous les propos qu'il a dit en conférence de presse. Je partage sa conclusion qu'on doit faire en sorte de mettre fin au confinement. Essayez pas de, par association, me donner des propos que me faire dire des propos que je n'ai pas dit. Ce que j'ai dit en conférence de presse, c'est ce que je crois. Et le pasteur, tout comme aussi Randy Hillier, le député de l'Ontario, on est là parce qu'on veut mettre fin au confinement. Certains veulent mettre fin au confinement basé sur d'autres raisons. Moi, la raison principale, c'est qu'on faut revivre. Regardez, j'étais en Ontario grâce à ces manifestations-là. M. Ford a reculé sur deux initiatives. Un, permettre à la police, comme dans les pays communistes, d'arrêter n'importe qui, n'importe quand pour leur demander qu'est-ce qu'ils font là. Mmh. Il a reculé à cause de la pression et certainement peut-être à cause de ces deux manifestations-là que j'ai fait en fin de semaine. Et aussi à cause des parents qui, lorsqu'il interdit que les enfants ne pouvaient pas aller jouer dans les parcs, il a reculé sur ces deux mesures-là. Moi, je veux qu'on recule sur l'ensemble des mesures et qu'on revienne à la vie normale.
Bon, mais la vie normale, on va pouvoir la reprendre quand tout le monde sera vacciné. Et malheureusement, vous ne prendrez pas part à cette campagne-là. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Maxime Bernier, donc chef du Parti populaire du Canada. Et je vous souhaite la santé, Monsieur Bernier.
Merci bien. Même chose pour vous. Bye bye.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
On connaît tous la compagnie Evian, cette compagnie d'embouteillage d'eau de source. Ce serait tout à fait normal qu'une compagnie comme Evian, sur son compte Twitter, régulièrement fasse la promotion de l'eau de source. Comme par exemple, en faisant des tweets, des gazouillis pour dire, avez-vous bu vos 8 verres d'eau par jour aujourd'hui? C'est ce que la compagnie Evian a fait la semaine dernière, sauf qu'ils l'ont fait le jour qui était le premier jour du Ramadan. Donc cette période où les musulmans pratiquants ne boivent pas et ne mangent pas du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Pouvez-vous croire que la compagnie Evian s'est sentie obligée de s'excuser auprès de la communauté musulmane d'avoir encouragé les gens à boire en plein Ramadan? On va parler de cette situation-là avec Christian Rioux, il est correspondant du Devoir à Paris, il est aussi collaborateur dans plusieurs émissions ici à Cube Radio. Bonjour Christian.
Bonjour Sophie.
Je ne peux pas croire qu'une compagnie comme Evian se sent obligé de s'excuser d'avoir encouragé les gens à boire de l'eau. On est rendu là, Christian.
oui, il semblerait que c'est bon de boire de l'eau. Tous les experts, les hygiénistes le disent, mais quand c'est évident et quand c'est la première journée du Ramadan, il semble que ce soit autre chose. En effet, vous l'avez dit, Evian a fait une publicité sur Twitter en disant si vous avez déjà bu votre litre d'eau aujourd'hui, eh bien retweetez ce message. Et là, évidemment, une bande d'hurluberlus se sont mis à dire « Ah, vous faites ça le premier jour du Ramadan, c'est islamophobe, c'est ce que vous voulez. » Vous savez, c'est très, très peu de gens qui ont réagi comme ça. On parle vraiment d'un micro-événement et qui devient tout à coup un événement dont on parle à Montréal, vous voyez, au contraire.
Ben oui,
mais c'est vraiment un micro-événement. Et là, tout à coup, je pense que ça serait passé inaperçu si ça avait continué comme ça. Eh bien, Evian, comme vous l'avez dit, s'excuse, parle d'une maladresse. Ici, d'ailleurs, le mot d'excuse d'Evian est remarquable. Hein. Ici, la team Evian,
oui.
Remarquez bien, la team
Evian. Oui, parce qu'on est en France.
Désolé.
Ouais.
Voilà, désolé pour la maladresse de ce tweet qui n'appelle à aucune provocation. Bon, et donc, une grande entreprise, propriété de Danone, s'excuse, se complaît en génuflexion, met le genou par terre pourquoi? Pour trois imbéciles qui, sur Twitter, ont essayé de faire un amalgame entre une publicité d'eau et une publicité et le début du Ramadan. Ils auraient pu faire la même chose avec n'importe quoi. Ils auraient pu faire la même chose avec des publicités d'aliments.
De nourriture, ben oui.
Absolument, ça aurait pu être fait avec n'importe quoi. D'ailleurs, il y a des gens qui ont tweeté de manière assez amusante. Et vous n'avez pas pensé aux gens qui subissent des dialyses. Hein. Vous savez que les gens qui ont des problèmes rénaux, souvent qui subissent des dialyses, n'ont pas le droit de boire beaucoup d'eau. Ils sont vraiment limités dans le nombre de litres d'eau qu'ils peuvent boire. Et donc, imaginez l'offense qu'Evian a fait à ces gens-là. Donc, il faut être victime, mais un micro-événement devient gigantesque parce qu'une compagnie comme ça s'excuse, mais s'excuse de rien. C'est-à-dire, vous savez, ce sont devenus des stratégies de communication aujourd'hui. Hein. Il y a des gens très, très, très bien payés qui sont engagés par ces compagnies-là, par Danone, tout ça pour dire, écoutez, il ne s'agit pas de raisonner ou de comprendre ce qui s'est passé. Nous, ça, c'est un peu notre métier à nous, les journalistes.
Les analystes,
hein. Mais eux, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de damage control, hein, comme on peut le dire, de contrôle du risque. Comment faire en sorte que tout ça n'empire pas, et on sait qu'en s'excusant immédiatement, on a des chances de calmer, d'éteindre un peu le feu. Et aujourd'hui, vous savez comment les questions liées aux musulmans en France sont devenues sensibles, tout de suite attirent les médias, font des grosses nouvelles. Donc, Evian, évidemment, a réagi spontanément comme ça, parce que vous savez que les compagnies aujourd'hui n'en ont plus assez que simplement de faire des bons produits, de
pouvoir essayer
de la bonne eau.
Il faut être des citoyens exemplaires. Voilà,
oui,
c'est ça.
Il faut être.
Oui, oui.
Ça suffit plus de faire de l'eau, ça suffit plus de faire des voitures, c'est plus assez de faire des vêtements. Il faut en plus montrer qu'on est gentil, qu'on est aimable, qu'on aime les gens, qu'on n'a pas de mauvaises pensées, quoi. Et donc, voilà. Et c'est ce genre d'événement qui pollue aujourd'hui quelque part la vie publique d'une certaine façon, parce que ces entreprises n'ont pas de colonne vertébrale et prennent dans le fond les gens pour des imbéciles, parce que c'est un peu ça. On a l'impression quand même d'être un peu pris pour des imbéciles dans ça.
Oui, alors ce qui est amusant quand même, c'est qu'il y a plein de gens qui s'en sont donnés à cœur joie, et je pense entre autres au philosophe Raphaël Enthoven, qui a dit, ben là, à ce moment-là, je vais moi aussi me plaindre quand il y a des publicités payer pour de la nourriture en plein Kippour. Donc, je crois comprendre que c'est une fête juive où, pendant un certain temps, absolument, peut-être on n'a pas le droit de manger. Et en fait, quand on fait carême chez les catholiques à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait aucune publicité à la télé ni nulle part, parce que les ultra-catholiques, enfin, les catholiques pratiquants font carême. Je veux dire, si on commence
faire... Mais c'est pas sûr que ça aurait le même effet, hein. Je suis pas sûr que ça aurait le même effet, parce que... Non, c'est parce qu'il y a tout, vous savez, il y a toute une gauche qui a désigné les musulmans comme étant les opprimés de notre époque. Moi, j'avoue que si j'étais musulman, j'aimerais pas ça me faire qualifier comme ça, hein, parce qu'on n'est pas opprimé comme ça.
C'est très paternaliste,
oui. Oui, c'est très paternaliste, mais il y a toute une gauche qui a désigné les musulmans comme les opprimés. Donc il faut toujours les défendre. Que ça ait du sens, que ça n'ait pas de sens, c'est pas grave, qu'ils soient opprimés, qu'ils ne le soient pas. Il faut toujours les défendre. Et donc voilà, c'est pour ça qu'Evian, sachant fort bien ça, c'est excusé. Mais vous savez, il y en a d'autres qui ont eu aussi beaucoup d'esprit, qui ont dit que Evian était devenu Vichy, donc collabo.
Oh, attends, ah non, mais c'est parce que attendez, faut expliquer à tout le monde, c'est que Vichy, oui, donc c'est deux choses. C'est évidemment
c'était
de l'eau de source.
Le gouvernement de la France, France occupée, qui était à l'époque de Pétain, qui était à Vichy, donc un établi gouvernement collaborateur, et tout le monde connaît l'eau de Vichy, évidemment. Donc Evian est devenu Vichy, donc
c'est donc, très bon.
Mais, bon, tout le monde s'en est donné à cœur joie, mais dans le fond, c'est pas drôle. Je pense que c'est pas drôle parce que c'est le genre, comme je vous dis, d'événements qui polluent littéralement l'information et la vie publique, le débat public. On en est rendu à discuter de bêtises, hein, littéralement de bêtises, tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont prêts à faire croire qu'ils souffrent d'une publicité déviante. Mais qui peut souffrir de ça? Voyons, c'est ridicule.
Mais ce que je trouve très triste, c'est qu'il y a réellement des musulmans qui sont l'objet de discrimination, qui sont l'objet d'actes haineux. Et donc, si on gaspille de la salive et qu'on gaspille du temps et qu'on gaspille de l'énergie à combattre un gazouillis inoffensif d'Evian, pendant ce temps-là, on n'est pas en train de s'attaquer à des vrais propos islamophobes, à une vraie haine envers les musulmans. Et surtout, c'est un peu le bon vieux principe de Pierre et le loup. Donc, Pierre qui passe son temps à crier au loup, et finalement, les villageois accourent et il n'y a pas de loup. Et le jour où, en effet, le loup est là, ben, il n'y a plus aucun villageois qui a envie de se porter à sa défense. Donc, si des groupuscules, vraiment une minorité de gens crient à l'islamophobie alors qu'il n'y a pas lieu, ben, le jour où il y a vraiment des actes répréhensibles, ben, ça vient édulcorer cette indignation-là. Et c'est ça qui est dommage.
Oui, absolument. Je pense que ces grandes entreprises-là, quelque part, ne se préoccupent pas de ça. Hein. Ça les intéresse pas. Eux, ils font, ils préservent leur marque d'entreprise, hein, comme ils disent. Mm-hmm. C'est tout ce qui les intéresse. Mais effectivement, des musulmans qui sont opprimés, écoutez, il y en a en Chine. Hein. Ils s'appellent les Ouïghours. C'est tout à fait connu. Mais effectivement, je vous le répète, il y a toute une partie de la gauche aujourd'hui qui a décidé que les musulmans, c'était son nouveau prolétariat. Vous savez, à d'autres époques, on parlait des ouvriers, des pauvres ouvriers qui souffraient. Vous savez, on racontait des histoires du 19e siècle, hein, de la révolution, de la révolution
germinale
en Angleterre. Alors qu'on, quand même, on parlait des ouvriers de la United Aircraft ou de, quand même, des ouvriers qui gagnaient assez bien leur vie et qui font des salaires que moi j'ai jamais fait. Et donc, c'est très amusant parce que on avait une espèce de description misérabiliste comme ça de la classe ouvrière. Mais aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire ceux qu'on appelle les racisés, hein, parce que les musulmans sont les premiers souvent dans la liste, eh bien, on les décrit comme une espèce de classe ouvrière exploitée, sans d'ailleurs leur demander leur opinion, parce qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui se considèrent pas racisés, qui considèrent pas qu'ils sont opprimés. Peut-être qu'ils rencontrent certaines difficultés dans leur vie, mais ça ne les définit pas comme ça ne définit pas leur identité, et peut-être qu'ils sont pas très heureux qu'on les considère comme ça.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment toute la réaction que ça a provoqué en France. Évidemment, tout le monde a fait des blagues. Bon, c'est une tempête dans un verre d'eau. Ha, ha, ha. Mais il y a quand même une réaction intéressante, c'est celle de Sarah El-Hairi, qui est secrétaire d'État chargée à la jeunesse et qui dit que la marque Evian a cédé aux islamo-gauchistes. Et ça, c'est très, très intéressant, parce que c'est une expression qui est très, très peu utilisée ici au Québec. C'est ce mot islamo-gauchiste. islamo-gauchiste qui sert à désigner la gauche, donc qui est alliée d'une certaine façon à cet islam plus politique, et c'est assez intéressant de voir quand même une secrétaire d'État qui pointe du doigt cette mouvance-là, qui est très militante, puis très prête à grimper dans les rideaux pour des peccadilles.
Oui, oui, absolument. Mais vous savez qu'en France, bon, dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, tout le monde n'est pas d'accord nécessairement sur l'utilisation du terme, mais Emmanuel Macron lui-même a parlé de l'islamo-gauchisme et d'un islam qui se veut séparatiste quelque part. Et donc, oui, il y a des ministres de Macron qui osent parler de l'islamo-gauchisme, qui est cette espèce de, c'est un peu ce que je vous décrivais, c'est-à-dire que les musulmans étant devenus les prolétaires de notre époque, pour ces gens-là, pour ces nouveaux marxistes quelque part, eh bien, tout est bon pour défendre l'islam. Et donc, oui, on voit une espèce d'alliance entre des partis de gauche. On voit en France Jean-Luc Mélenchon manifester dans des événements contre l'islamophobie, contre ce qu'on appelle l'islamophobie, qui sont tout simplement des débats normaux qu'on a en France sur la question de la laïcité, sur le port du voile, sur des questions comme ça, des sujets dont on a toujours parlé en France, mais qu'aujourd'hui, le simple fait d'en parler, on devient islamophobe, vous voyez.
Oui, mais la raison pour laquelle je parlais de ça, c'est que, puis je suis très contente que vous nous ayez dit, je ne savais pas qu'Emmanuel Macron lui-même utilisait ce terme-là, c'est qu'on n'imagine absolument pas au Québec, par exemple, François Legault un de ses ministres ou d'un de ses sous-ministres ou qui que ce soit dans l'appareil gouvernemental utiliser l'expression islamo-gauchisme. Je pense que les gens à Québec solidaire feraient une crise cardiaque, puis je veux dire, ça provoquerait un tollé. Donc, je trouvais ça important de souligner le fait que dans l'appareil gouvernemental en France, on n'hésite pas. Il y a des gens qui l'utilisent et que ce sont pas des xénophobes ou des gens qui tiennent des propos haineux.
Et ça vaut, je répéterai que ça vaut à la France d'être dénoncé dans le New York Times, dans les médias américains, parce que la France et c'est notre ami Mathieu Bock-Côté qui est à Paris en ce moment, qui le répète à peu près sur tous les plateaux de télévision, mais c'est vrai que les Français ne le savent pas, ça, ils n'ont souvent pas conscience, mais c'est vrai que la France fait figure de résistant dans ce débat-là, c'est-à-dire qu'elle je trouve que la France a conservé quelque part un certain bon sens, et quand ces nouvelles idées américaines, islamo-gauchistes, nous arrivent des États-Unis ou d'ailleurs, eh bien elle ose poser des questions.
Voilà, exactement. C'est très bien résumé. Chanceux, vous qui êtes à Paris et qui voyez donc se déployer aussi toutes les apparitions médiatiques de Mathieu Bock-Côté, qu'on salue d'ailleurs ce matin. Le deuxième sujet dont on voulait parler, c'est en fait cette... parce que quand on parle de violence policière, on parle habituellement de violence que les policiers commettent envers des citoyens. Mais en France, en ce moment, on parle beaucoup de la violence policière, la violence envers les policiers. Expliquez-nous pourquoi, absolument. Christian.
Absolument, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que la violence que subissaient les policiers était devenue aujourd'hui une réalité extrêmement présente, prégnante dans la société française. Et on en a eu ce week-end un exemple. Il y a un jugement qui a été rendu en fin de semaine contre il y avait 13 jeunes d'une banlieue qui s'appelle Viry-Châtillon qui était jugés, qui 5 ont été condamnés à des peines allant de 6 ans à 18 ans de prison pour tentative de meurtre sur des policiers. Ça s'est passé il y a 4 ans à Viry-Châtillon. Si vous allez sur Internet vérifier c'est quoi Viry-Châtillon, c'est une petite banlieue un peu au sud d'Orly, sud de Paris. Et vous allez voir des belles photos. Vous allez voir des belles photos bucoliques là, des temps des paysages champêtres. C'est très très beau. Sauf que le 8 octobre 2016 dans cette banlieue-là, deux voitures de police avec quatre policiers à leur bord, deux dans chacune des voitures, sont tombées dans un guet-apens, littéralement, une bande de 16 jeunes, les ont coincés, ont cassé les vitres et ont jeté des cocktails Molotov dans chacune des voitures, donc directement sur les policiers qui ont pris feu. Deux des policiers ont pris feu. Là-dedans, il y a un jeune homme de 28 ans qui a passé plusieurs semaines dans le coma. à cause de ça. Vous savez, vous êtes dans la voiture, vous avez votre ceinture de sécurité, vous êtes enfermé,
oui.
Vous êtes un costume élevateur sur vous, vous êtes prisonnier. Et il y a même une policière, une femme de 39 ans qui a réussi à se dégager, qui s'est levée, qui est sortie de la voiture pour appeler au secours et qui s'est fait lapider par la bande de jeunes, de 16 jeunes qui étaient là. Lapidée avec des roches et elle a hurlé « J'ai des enfants, aidez-moi ». Donc vous voyez le genre de situation et j'ajoute à ça aujourd'hui il y a un débat sur la condamnation parce que c'était un appel il y a eu seulement 5 personnes de condamnées alors que
sur les 16
sur les 16 il y en a eu 13 qui ont été traduits en cours et là cette fois 5 de condamnés donc 8 d'acquittés et le plus étonnant pour les policiers c'est qu'on a acquitté plus de monde en appel que lors du premier jugement, alors que l'appel avait été fait justement pour accroître, pour renforcer un peu les peines. Donc, il y a tout un débat là-dessus qui est assez complexe, mais notez une chose, il n'y a pas eu un coup de feu tiré dans cette histoire-là. On est en France. J'essayais d'imaginer une scène comme ça aux États-Unis, il y aurait eu 2 ou 3 morts.
Mais c'est sûr.
Il n'y a pas eu un coup de feu de tiré. Évidemment, ils ne sont pas tous de ce niveau-là, mais des violences comme ça contre les policiers, on peut en recenser 30 000 par année en France.
C'est énorme.
Aujourd'hui. Alors, exactement. Elles ont doublé. Le nombre de ces violences-là ont doublé en 10 ans. C'est littéralement des situations comme celle que je vous décris où les policiers tombent complètement dans des guet-apens. Des fois, c'est même les pompiers qu'on appelle et à qui on tend des guet-apens. Et je le répète, pas un seul coup de feu. J'ai vérifié d'ailleurs les statistiques comparées aux États-Unis. En France, des morts par balle sous les balles des policiers, en 2017, il y en a eu 14. En 2018, il y en a eu 15. En 2019, il y en a eu 19. C'est 10 fois moins qu'aux États-Unis, ou 10 ou 12 fois moins qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on atteint les 1000 morts par année, à peu près.
Incroyable.
Autour de ça. C'est tout à fait incroyable. Et donc, on voit bien que la police française est une police pacifique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des dérapages, qu'il n'y a pas des policiers corrompus. Il y en a comme partout.
Bien sûr.
Généralement, la police est relativement pacifique en France.
Et c'est très important de rappeler cette histoire-là, Christian, parce que en effet, comme je le disais, quand on a dans la même phrase les mots violence et police, on pense évidemment spontanément à la police qui est à l'origine de la violence, mais là, c'est un cas... Mais écoute, c'est terrible ce que vous nous racontez, cette femme-là, on imagine se faire lapider, c'est absolument horrible. Merci beaucoup, Christian, de nous avoir parlé de tout ça. J'ai déjà hâte à notre prochaine rencontre lundi absolument. Prochain pour voir de quel sujet on va parler. Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et qui est collaborateur ici à Cube Radio. Merci beaucoup, Christian. Allez boire vos 8 verres d'eau, là. Et viens en Vichy, vous avez le choix.
Oui, je me dépêche. Ça va être l'eau du robinet. L'eau est délicieuse ici, où je suis.
Oui, bon, ben c'est encore mieux. Merci.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio.
On a connu Olivier Culte dans cette télé-réalité culte, petit jeu de mots facile ici, cette télé-réalité, donc les cultes qui étaient à Musique Plus en 2017, mais aujourd'hui, on lui parle parce qu'il sort un vernis à ongles noir pour hommes et dont 100% des profits vont être versés pour faire de la prévention du suicide chez les hommes. Olivier Culte, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Oui, moi, ça va très bien. Et vous? Donc, on le sait, en 2021, le vernis à ongles, c'est autant pour les femmes que pour les hommes. On l'a vu avec Jay du Temple. Vous avez décidé de sortir cette ligne, donc Blackout, un vernis à ongles noir. Pourquoi, Monsieur Culte?
Dans le fond, pour moi, le vernis à ongles noir, ça a tout le temps été à la mode, je veux dire, parce que je viens d'une scène un peu plus marginale, je dirais, étant musicien dans le passé, et après barbier, donc vraiment dans le milieu artistique. Donc pour moi, j'ai jamais vu de tabou avec un homme qui porte du vernis à ongles. Mais heureusement, depuis comme 2020, 2021, on en voit de plus en plus, comme vous avez dit, que ce soit avec Jay du Temple ou d'autres personnalités publiques qui en portent
Sébastien Diaz, on l'a vu à la télé avec ça. Ouais.
Exactement. Donc, j'ai utilisé ça pour justement, je me suis dit, c'est de plus en plus accepté. On va lui donner un meaning, si on veut. On va décider, j'ai décidé que le vernis à ongles noir pour Blackout allait justement montrer une ouverture face aux hommes qui ont besoin de parler, puis montrer leurs sentiments, puis montrer qu'ensemble, en tant qu'homme, on se supporte, puis qu'on peut ensemble lever des fonds puis essayer de donner le plus d'argent possible à des organismes pour lutter contre la prévention du suicide.
Oui, pour lutter pour la prévention du suicide, parce que si vous luttez contre, je vous taquine, Olivier. Alors donc, je suis allée voir sur le site de Blackout. Bon, je vais faire une petite, je vais vous chicaner un petit peu. Je trouve qu'il y a beaucoup de mots en anglais. Un fashion statement qui sauve la vie, Blackout. Enfin bon, il y a beaucoup d'expressions en anglais. Mais l'idée, c'est look good and save lives. Donc, paraissez bien et sauver des vies. En quoi on peut sauver des vies quand on s'achète un vernis à ongles?
Bien, que ce soit le vernis à ongles ou la bague ou la casquette, parce qu'il y a trois articles sur le site de Blackout, puis aussi la section juste donation pour ceux qui ne veulent pas acheter quelque chose. Mais 100% des profits de ces ventes-là, peu importe l'item, va aller directement à un organisme québécois qui lutte contre le suicide. Donc, à tous les mois, ça va être un organisme différent qui va recevoir un montant d'argent qu'on a amassé. Pour le premier mois, quand on va atteindre ce premier mois-là, vers le 12 mai, ça va être un beau gros chèque qu'on va pouvoir les donner à Suicide Action. Et pour la deuxième organisation, on va y aller avec tel jeune. Et par la suite, on va en choisir tout le temps une comme ça à chaque mois. Puis on va faire une belle rotation d'inventaire sur le site web de Blackout. Il va y avoir des nouveaux articles qui vont sortir. Donc, ça va être possible pour les gens qui ont déjà acheté un article Blackout d'acheter quelque chose de nouveau, de différent, presque à chaque mois. Donc, de faire plusieurs donations sans que ça soit la même chose tout le temps. Que je trouve qui arrive trop souvent avec les organismes. On n'a pas de nouveautés. Donc là, les gens pourront donner et acheter quelque chose de nouveau pas mal à chaque mois.
D'accord. Alors, vu que vous avez mentionné Suicide Action, et à chaque fois qu'on parle, évidemment, de passage à l'acte, c'est toujours très important de donner les numéros de téléphone. Donc, si vous avez des pensées noires, c'est le cas de le dire, vu la couleur du vernis à ongles, si vous avez des pensées tristes et que vous avez besoin d'aide, je rappelle le numéro de téléphone de Suicide Action. C'est le 831-833-456-4566. Monsieur Culte, pourquoi cette cause-là du suicide vous touche? Est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage qui sont passés à l'acte? C'est quoi votre raison d'être qui vous anime dans ce projet-là?
Bien, il y en a plusieurs parce que, étant barbier depuis 8 ans maintenant, j'ai rencontré dizaines de milliers d'hommes dans ma vie. Puis des hommes qui parlent pas de leurs émotions, rien du tout. Puis je l'ai vu avec l'année de la pandémie, l'année 2020, qui a vraiment frappé fort au niveau de la santé mentale. Les hommes autour de moi, que ce soit ma clientèle ou que ce soit mes collègues barbiers ou mes amis proches, que beaucoup d'entre eux ont fait des tentatives de suicide ou on a vu un changement d'attitude, ils sont complètement déconnectés de la société, déconnectés de tous les réseaux, veulent plus parler à personne. Puis je savais pas comment aider, puis c'est vers la fin 2020, en décembre, j'ai un ami encore plus proche qui a vraiment fait une tentative, puis d'aider sauver dernière minute. Et puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut faire quelque chose. Moi, j'ai deux jeunes petits gars, un gars de 4 ans, un gars d'1 an. Je veux pas que mes fils grandissent dans une société où ce que un homme peut pas pleurer, qu'un homme peut pas parler de ses sentiments, peut pas aller chercher de l'aide. Parce que ce qu'on remarque, c'est que les femmes et les hommes vivent la même détresse psychologique. C'est juste que les femmes ont une plus grande facilité à s'ouvrir, que ce soit en parler à leur médecin ou à leurs amis, parce que les hommes font pas cette étape-là. Ils essaient de s'auto-gérer eux-mêmes. Puis souvent, ça fait rien. Ça fait que quand ça ressort, la seule émotion qu'ils savent sortir, c'est la violence, la colère. Puis c'est pas l'émotion qui va régler. C'est pas cette émotion-là qu'il faut pour régler le problème.
Vous avez tellement raison, puis en plus, bon, on parle beaucoup en ce moment, évidemment, avec ces chiffres catastrophiques, 10 féminicides au cours des dernières semaines au Québec, on parle beaucoup justement de cette violence-là qui reste à l'intérieur ou alors qui s'exprime de la mauvaise façon, que ce soit envers soi ou envers les autres. Entend justement que, Barbier, vous êtes appelé justement à entendre les confidences des hommes. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que les gars ont autant de difficultés à parler? Ils ont peur de quoi?
Je pense que c'est encore un problème qu'on attaque pas, qu'on n'a jamais attaqué en tant que société, parce qu'on essaie, on voit que les hommes font des mauvaises choses depuis des années, depuis des générations. Tu sais, on a attaqué le problème du MeToo il y a 2 ans de ça. Là, en soi, on a un énorme problème de féminicide. Puis on essaie de faire beaucoup, on fait beaucoup de on parle aux hommes, puis on leur dit comment agir en société, mais on leur dit pas comment agir avec eux-mêmes. Puis ça, c'est un peu un problème que je vois depuis que même moi, je suis jeune. C'est que même à l'éducation, à l'école, on montre pas comment parler nos sentiments, puis on parle pas de ça. Puis j'ai l'impression que les hommes, ils savent juste pas comment parler leurs émotions. Ils ont pas de façon de gérer avec leur problème. Donc moi, en tant que barbier, quand les hommes s'assiedent sur ma chaise, on dirait que c'est le seul moment où ils vont parler. Parce que quand ils voient leurs amis, quand les hommes, normalement, veulent aller voir leurs amis, c'est pour, désolé l'expression, mais blow off some steam. T'sais, ils vont aller avec leurs amis, ils vont aller boire dans un bar, ils vont aller fêter. Ils vont pas aller s'asseoir avec leurs amis puis parler leurs sentiments. Ils vont juste aller essayer d'oublier les sentiments au lieu de vraiment les partager. Puis,
très bien dit, très bien résumé.
Ça pourrait beaucoup plus les aider. Parce que quand ils sont en chaise de barbier, il n'y a pas le bar, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien. Donc, ils n'ont pas le choix de parler. Puis là, ils se rendent compte qu'ils parlent. Puis souvent, moi, je le vois avec mes clients, ça leur fait du bien de parler. Mais c'est pas quelque chose qu'ils vont recréer avec leurs amis par peur de jugement ou je sais pas c'est quoi la peur, mais cette peur-là, pour essayer de la briser, c'est un tabou qu'il faut briser, on n'a pas le choix.
En effet. Ben écoutez, vous êtes un peu psychologue, hein, en étant barbier. Donc, ben je voulais saluer cette initiative-là que vous avez prise. Donc, j'invite tout le monde à aller sur votre site Blackout et à se procurer, en effet, soit les produits ou faire des dons directement pour ces différents organismes. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui de la détresse des hommes, Olivier Kuhl. C'est très apprécié.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Je voudrais remercier Rémi Poitras qui est en stage avec nous à la réalisation, la mise en onde. Il y avait aussi Jean-François Roy à la recherche, William Boivin. Merci beaucoup d'avoir été là. Et ben, comme j'ai dit à Maxime Bernier, ben, bonne santé tout le monde.
Cube Radio.